Archivif ou comment les archives départementales de l'Ardèche éclairent le présent. Un magazine en partenariat avec le département de l'Ardèche.
Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans Archivif, votre magazine qui vous invite à comprendre ce qui éclaire le présent. Le mois dernier, nous avons sillonné pour un troisième épisode les chemins de nos vallées reliées par nos ponts ardéchois. Ce mois-ci, on vous propose pour ce nouveau numéro d'emprunter une direction tout autre, celle qui porte un regard social sur l'aide à l'enfance. Que savons-nous de ce service du département qui accompagne les enfants et les familles? Et depuis quand? Quelles évolutions pour la protection infantile sur notre territoire? Eh bien, les réponses à ces questions vous sont apportées, comme toujours, par notre fidèle fil conducteur entre passé et présent, Juliette Gauthier, directrice des archives départementales. Bonjour.
Bonjour Laura.
Et également avec nous, pardon, pour nous éclairer, Bruce Larieux, à la direction enfance-famille. Bonjour.
Bonjour.
Avant de me tourner vers vous deux pour comprendre les enjeux de la protection de l'enfance en Ardèche, tout d'abord, combien d'enfants vivent sur notre territoire aujourd'hui? Eh bien, selon les chiffres de l'INSEE, en 2020, l'Ardèche compte 54 031 enfants de 0 à 14 ans, ce qui correspond à 16,5% de la population. Bruce Larieux, est-ce que l'on sait aussi combien d'enfants sont placés, sont pris en charge par le département, le service de l'aide à l'enfance?
Alors aujourd'hui en Ardèche, il y a environ 1300 enfants qui sont accompagnés par les services de protection de l'enfance, et en tout près de 900 mineurs qui sont confiés à l'aide sociale à l'enfance de l'Ardèche.
On sait que les pouvoirs publics assurent depuis longtemps un accompagnement auprès des enfants abandonnés, mais est-ce que, Juliette, est-ce que l'on sait si cet accueil a toujours été du ressort des pouvoirs publics?
Alors, des pouvoirs publics tels qu'on les connaît aujourd'hui, pas forcément. L'État a commencé à légiférer sur la question de l'enfance seulement au XVIe siècle. En 1552, le Parlement de Paris condamne ce qu'on appelle alors l'exposition des enfants, donc c'est-à-dire le fait d'abandonner son enfant. La même année, il impose aux seigneurs, donc aux pouvoirs locaux, de contribuer à l'entretien, à la subsistance et à l'éducation des enfants trouvés. Quelques années plus tard, on a de nouveau une législation, c'est un édit du roi Henri II qui interdit aux femmes d'accoucher secrètement et qui rend obligatoire de déclarer sa grossesse, ce qui existe en fait toujours aujourd'hui. Mais alors, à cette époque-là, c'est plutôt pour lutter contre les avortements et les infanticides qu'on demande aux femmes de déclarer leur grossesse. Mais pourtant, les abandons d'enfants, ils ne diminuent pas du tout, bien au contraire, ils explosent et les enfants sont alors souvent placés dans des hospices. Le plus connu, il se trouve à Paris, c'est l'hôpital des enfants trouvés, qui est fondé en 1670 et qui gère en réalité toute l'administration des enfants abandonnés pour le royaume de France.
Aujourd'hui, quand on pense à l'aide à l'enfance, dans le parler quotidien, on dit souvent les enfants de la DAS, mais c'est une administration qui a récemment évolué, elle a changé de nom. Bruce, qu'est devenue la DAS aujourd'hui?
Alors oui, effectivement, ce terme reste, les enfants de la DAS, et pour autant, c'est la loi du 6 janvier 1986 qui a transféré la compétence de l'aide sociale à l'enfance au Conseil général à l'époque, du fait de la décentralisation qui était opérée depuis 1982. Et ça fera l'objet d'une réécriture complète de ses missions. Donc, complétées à deux reprises avec les lois de 2007 et 2022, les missions de l'ASE sont les mêmes, en fait, depuis 1986.
Et au fil du temps, les raisons qui conduisent au placement d'un enfant ont évolué. Et est-ce qu'on en garde trace aujourd'hui dans le département de l'Ardèche?
Oui, bien sûr, et ces raisons, elles ont été très étudiées par les historiens. Alors surtout pour la période du XVIIIe siècle jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, on en distingue deux principales. La première, c'est la misère des femmes qui accouchent. Et la deuxième, c'est la réprobation de l'illégitimité, c'est-à-dire la honte qu'une femme peut avoir d'accoucher d'un enfant né hors mariage. En juin 1792, à Saint-Georges, Marianne Bonnet abandonne son bébé d'un mois et l'explique ainsi. Elle se voit exposée à voir périr son enfant de misère. Aux archives, on conserve alors beaucoup de documents sur les enfants abandonnés, mais aussi quelques objets, alors qui sont souvent des objets assez touchants, des petits billets, des bracelets, des signes distinctifs qui montrent un peu l'espoir d'un parent de venir un jour rechercher son enfant quand des jours meilleurs viendront. Je vous donne un exemple. En 1832, une fillette est abandonnée avec une note sur laquelle lequel on peut lire « L'enfant qu'on expose est une fille âgée de 6 mois. Elle a été baptisée et sera réclamée un jour. Elle s'appelle Marie Toulimanque. » Alors, est-ce qu'elle a été récupérée? Ça, je ne peux pas vous le dire. Mais c'est vraiment un grand mouvement qu'on voit dans les abandons d'enfants. Alors que pourtant, ils sont très loin d'échapper à la misère, ces enfants. Ils se retrouvent dans des situations très précaires. Et jusqu'au début du 19e siècle, on voit que les taux de mortalité des enfants abandonnés avoisinent les 80%.
Aujourd'hui, Bruce, est-ce que les enfants abandonnés constituent la majeure partie des enfants aidés par le département?
Non, aujourd'hui, la principale mission des services de l'ASE, c'est d'intervenir auprès des enfants et des parents dans une forme de soutien. Les parents sont au cœur de l'accompagnement en protection de l'enfance et on est dans une logique d'accompagnement ou au moins de prise en charge provisoire. Voilà, les enfants abandonnés, reconnus comme par le cadre légal comme délaissés par leurs parents, par le tribunal judiciaire, sont minoritaires à l'aide sociale à l'enfance. Le délaissement se caractérise par une absence de relation parent-enfant pendant plus d'un an. Néanmoins, il y en a, et ces enfants qui sont délaissés, ils accèdent au statut de pupille de l'État. Enfin, certains bébés sont recueillis dès la naissance dans le cadre de la procédure d'accouchement sous le secret. Nous avons un protocole d'accompagnement et de travail avec les maternités du département.
Quels sont ces lieux de placement, justement, pour les enfants?
Alors, un mineur confié à l'aide sociale à l'enfance peut être accueilli dans différents lieux. Tout d'abord chez des assistants familiaux, qu'on nommait famille d'accueil ou nourrice au temps de la DAS. Aujourd'hui, un assistant familial obtient un agrément, un diplôme d'État sanctionne une formation de 300 heures. Les hommes sont minoritaires, mais de plus en plus représentés. Le deuxième lieu, c'est en maison d'enfants à caractère social, ce qu'on appelle communément les MECS. Pour la plupart, ce sont d'anciens orphelinats, établissements gérés par des œuvres religieuses. Un troisième type de lieu, c'est des lieux de vie et d'accueil. Ce sont des structures qui sont autorisées par le département sur des projets particuliers. Enfin, aujourd'hui, le sens de la loi et la volonté du législateur, actuellement, c'est de rechercher systématiquement une solution d'accueil, quand celle-ci est inévitable, dans l'environnement de la famille. Oncle, tante, amis, grands-parents, l'ASE doit rester le dernier cercle de protection.
Et Juliette, par le passé, est-ce que les pouvoirs publics prenaient-ils vraiment en compte ces enfants retirés à la garde de leurs parents?
Alors oui, c'est vrai qu'il y a une situation dont on n'a pas forcément parlé, c'est des enfants qui sont retirés en cours de vie. Si l'on prend l'exemple d'une incarcération qui est un peu particulière, celle pour mendicité, parce que c'est un délit d'après le code pénal en 1810, on voit que ces enfants ne sont pas vraiment isolés des parents. En fait, les enfants sont presque systématiquement incarcérés avec leurs parents. Entre 1812 et 1817, l'Ardèche dénombre 250 détenus pour mendicité, dont 83 enfants de 16 ans. Pardon. Le directeur du dépôt écrit à ce moment-là au préfet de l'Ardèche « Comme il n'y avait guère que des vêtements d'hommes et de femmes, il a fallu en confectionner sur les matières premières qui sont en magasin pour les enfants. » Le dépôt de Privas compte 14 bébés, 3 sont nés au dépôt, donc on voit vraiment qu'il y a aussi ce fil de la vie qui continue, et les conditions de vie de ces enfants sont très dures, bien loin de ce qu'on pourrait aujourd'hui imaginer. On a conservé pour cette période le registre des punitions. Et alors là, tenez-vous bien, Agathe, 5 ans, fait preuve de paresse incorrigible et d'insubordination. Elle est punie au pain sec et à l'eau. Louis, 10 ans, est isolé 13 jours pour paresse entêtée. Mais dans l'ensemble, le directeur du dépôt conclut qu'à l'exception de quelques enfants de 7 à 8 ans chez lesquels la légèreté l'emporte sur la crainte de la punition et qui ne sont pas toujours exacts à faire leurs tâches, tous les autres travaillent avec assez de zèle.
Et Bruce, tout au long du suivi d'un enfant, même lorsqu'il est placé, est-ce qu'il garde des liens avec l'administration du département?
Oui, un mineur qui est confié à l'ASE est sous la responsabilité du département. Chaque mineur a un référent à l'aide sociale à l'enfance, c'est comme ça qu'on appelle les travailleurs sociaux. Mmh. C'est lui qui suit son parcours, c'est le fil rouge de son parcours à l'aide sociale à l'enfance. Le référent s'assure que la prise en charge réponde aux besoins fondamentaux de l'enfant, quel que soit le type de lieu d'accueil. La situation du mineur, elle est évaluée au moins une fois par an, mais les liens sont réguliers tout au long de l'année. Lors d'une mesure judiciaire, par exemple, le département adresse un rapport chaque année et autant de fois que nécessaire au juge des enfants. Alors l'accompagnement s'est structuré, le passage de la DAS à la compétence du département, la définition des missions en 86 a permis de faire évoluer cet accompagnement. Aujourd'hui, une attention particulière est portée sur la fin de la prise en charge. Quand la majorité approche, on appelle ça l'entretien des 17 ans, le contrat d'accès à l'autonomie, le droit au retour une fois majeur et ce jusqu'à 21 ans. Donc la possibilité de consulter son dossier après sa majorité.
Et est-ce que ces liens avec l'administration, ça a toujours été le cas auparavant, Juliette?
Alors, oui, ça a toujours été le cas, mais pas toujours de manière aussi régulière que ce qu'on peut connaître aujourd'hui. Au XIXe siècle, on a des commentaires sur les fiches de suivi qui sont assez lapidaires. En bonne santé, c'est lire et écrire, pas de changement. Ce genre de petites notes qu'on retrouve à travers les dossiers. Parfois, et surtout à partir du XXe siècle, on va retrouver des correspondances très nourries, souvent assez touchantes, dans lesquelles le référent de l'administration, qui est alors le tuteur de l'enfant, peut constituer tour à tour soit un confident, soit une figure d'autorité un peu crainte. Il a en tout cas un vrai pouvoir dans toutes les décisions qui vont influencer sur la vie de l'enfant, comme pour ce jeune garçon qui écrit à son tuteur « Moi, j'aimerais faire anglais, espagnol, mais ne pas faire du latin ou du grec, car c'est ma perte. S'il vous plaît, ne me faites pas faire du latin. » Quelques années plus tard, on le retrouve réclamant être placé dans, et je le cite, « une maison où les gens sont intelligents et parlent au moins français et anglais ou allemand. Je ne suis tombée jusqu'à présent que sur des maisons de paysans. J'aimerais une maison qui ne soit pas dans les montagnes. Il y a plus de 10 ans que je n'ai vu une grande ville. »
Et l'un des enjeux majeurs du département également, c'est la PMI, la protection maternelle et infantile, la santé des jeunes enfants. Comment le département intervient-il dans ce domaine ?
Alors c'est un enjeu majeur. Intervenir au plus près, au plus tôt, prévenir plutôt que guérir. Le caractère universel de la PMI se traduit par un accès à ses services pour tous. C'est un des fondements de ce service. Alors, les services de PMI incarnent la prévention en protection de l'enfance, répondre aux besoins fondamentaux est déterminant tout au long de la vie, mais les 3 premières années de l'enfant déterminent toute la suite pour son développement. C'est ce que l'on retrouve dans le rapport des 1000 premiers jours. La PMI en Ardèche, elle est présente dans les centres médico-sociaux, elle se déplace au domicile des futurs parents, des nouveaux parents, à la maternité. Elle accompagne les parents à la prise en compte de tous les besoins des enfants dès leur plus jeune âge, au travers d'accompagnements individuels ou collectifs, et elle assure aussi en partie le suivi de la santé des mineurs confiés.
Et est-ce que cette question de la santé était-elle un enjeu, est-ce que c'est un enjeu récent ?
C'est un enjeu qui est intervenu surtout à la fin du 19e siècle, à une époque où le regard de la société et des pouvoirs publics sur l'enfant a complètement changé. C'est une époque aussi de progrès de l'hygiène, où la question démographique prend une ampleur nouvelle, il faut faire des enfants. L'idée est alors d'éduquer surtout les mères et les futures mères pour qu'elles mettent en place des mesures qui vont permettre à l'enfant de se développer au mieux. En fait, quelque chose qui existe toujours. On instaure ce qu'on appelle un carnet d'élevage. Alors, le terme n'existe plus, mais c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le carnet de santé, qui sont alors très peu utilisés. En 1954, on lit dans les notes d'une assistante sociale à Privas que les médecins y voient de la paperasse et ont l'air d'ignorer ces carnets. Le préfet de l'Ardèche, lui, il pose comme programme très clair en 1919 la lutte contre le logement insalubre, contre l'alcoolisme et contre la méconnaissance des règles d'hygiène. Et pour cela, il fait ouvrir un dispensaire d'hygiène sociale à Annonay, des consultations gratuites à Privas. Il insiste sur la nécessaire participation des enseignants de l'éducation nationale à cette instruction pour vraiment permettre une meilleure prise en charge des enfants.
Et aujourd'hui, le lien entre les archives départementales et la direction enfance-famille est essentiel, justement, pour comprendre cette évolution de l'aide à l'enfance.
Oui, ce lien entre la direction enfance-famille et les archives départementales, il est essentiel, essentiellement pour les personnes elles-mêmes ou pour leurs descendants, afin de leur permettre d'accéder, et c'est ce que disait Bruce, à leur dossier au fil du temps, parce que parfois c'est pas tout de suite qu'on consulte son dossier, mais c'est des années plus tard, ou alors ce sont les descendants qui viennent consulter ce dossier. C'est un travail très important qui est mené en lien entre nos deux services pour permettre de lever ces secrets, alors parfois posés par les parents, donc on peut pas toujours tout communiquer, mais en tout cas pour permettre d'accéder le plus possible aux informations qui nous concernent en respectant le secret de la vie privée et le secret médical. Dans les années 60, ces enfants y sollicitaient déjà l'accès à leur dossier et je vous cite un de ces enfants qui sollicite alors le directeur départemental, le prédécesseur lointain de Bruce, en lui écrivant « Monsieur le directeur, je me permets de vous écrire pour vous parler d'une histoire peu banale qui vient de m'arriver. J'aimerais que vous me donniez le maximum de renseignements que vous avez en votre possession. Voilà, par le fait du hasard et aussi par un concours de circonstances, que je viens de retrouver une de mes tantes qui habite à Valence. Par elle, j'ai retrouvé aussi ma mère, mes frères et sœurs. Ce que vous auriez pu craindre n'est pas arrivé. Je n'ai fait aucune histoire, mais je suis seulement content car j'ai enfin une famille. J'espère que cette fois, vous pourrez me dire toute la vérité afin que j'aie des preuves en main.
Merci de nous avoir éclairés sur cette évolution sociale qui s'articule sur notre territoire et qui concerne nos enfants d'hier, d'aujourd'hui, mais aussi de demain. Merci à Juliette Gauthier, directrice des archives départementales, et merci à vous, Bruce Larieux, à la direction enfance et famille au département. Je rappelle que vous pouvez réécouter cette émission en podcast sur le site de nos trois radios partenaires, Radio RCF, Fréquence 7 et RDB. On vous retrouve le mois prochain avec un nouveau numéro qui explorera les fouilles archéologiques de nos territoires et vous emmènera dans nos emblématiques grottes ardéchoises. Alors à très bientôt sur nos ondes.
Archivif ou comment les archives départementales de l'Ardèche éclairent le présent. Un magazine en partenariat avec le département de l'Ardèche.